On m'a demandé d'intervenir comme témoignage d'une praticienne sur cette question-là qui est quelle peut être la démarche pour aider les enseignants à faire face aux difficultés scolaires. Alors, en préambule, j'aimerais préciser que ce que je vais dire dans mon propos n'est qu'un exemple de ce qu'on peut faire dans un établissement et en aucun cas je l'érige en modèle ou j'aurai cette prétention. Ceci étant dit, je diviserai mon propos en deux temps. Puisque la difficulté scolaire des élèves, les difficultés scolaires des élèves sont multiples. Mais ici, je n'aborderai que deux aspects de ces difficultés. Le premier qui est les difficultés liées à l'acquisition des savoirs et des compétences et donc à l'apprentissage, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, les difficultés des élèves liées à l'image que ceux-ci ont d'eux-mêmes. Donc, au niveau des difficultés qui sont liées à l'apprentissage, le postulat de départ, c'est comment répondre aux besoins individualisés des élèves en acceptant peut-être de sortir du carcan des programmes, des disciplines et de la classe qui ont été considérés jusqu'à présent comme des cloisons non perméables. Comme il a été dit hier dans de multiples interventions, chaque élève doit pouvoir être amené du point A où il est, au point B où il doit aller, puis au point C, en sachant que tous les élèves n'avancent pas à la même vitesse et qu'ils ne partent pas du même point. Ce préambule posé, donc... On a cherché dans l'établissement comment arriver à faire avancer chaque élève dans la structure collège. Il est évident que pour faire avancer les élèves de ce point de vue, il est impératif de mon point de vue et du point de vue des équipes de mon établissement de travailler en changeant les pratiques pédagogiques au sein de la classe. C'est au sein de la classe que... il me semble une partie des solutions peuvent être trouvées. L'organisation du collège en séquences, en saucissonnage, en termes de contenu, de séquences temporelles, des séquences de 50 minutes, de regroupement d'élèves en fonction de leur année de naissance. Alors c'est un choix, hein, c'est le choix que nous avons fait en France, mais est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que parce qu'on est né la même année, on avance tous de la même manière? Je pose la question au jury. Voilà, cette organisation qui a pu être vécue à un moment donné comme un obstacle insurmontable est, de mon point de vue, en train de se faire dépasser. Donc, partant de tous ces postulats et ces constats, nous avons tenté une expérimentation pédagogique. Donc, sur le modèle, s'inspirant du modèle du premier degré, plus de maîtres que de classes, nous avons organisé en sixième des enseignements en groupe de besoins. C'est-à-dire que par deux classes, les sixièmes sont regroupés et sur deux heures de français et de mathématiques, sur l'ensemble de l'enseignement, sont constitués trois ou quatre groupes de besoins. Donc, cette organisation permet d'avoir l'enseignant qui a en charge la discipline, plus de faire intervenir d'autres enseignants. J'ai la chance dans mon établissement d'avoir des enseignants du premier degré, des professeurs des écoles qui interviennent, parce que dans l'établissement, nous avons un dispositif de français langue étrangère qui est mené par une enseignante du premier degré spécialisée qui a un autre regard. J'ai une unité pédagogique d'intégration, donc une autre enseignante du premier degré. Et donc, ces enseignants participent à ce qu'on appelle la mise en barrette, ainsi que des enseignants qui sont hors discipline, Par exemple, sur les barrettes de mathématiques, un professeur volontaire de technologie intervient sur le dispositif mathématique. Cette organisation permet donc, pour deux classes, de pouvoir moduler les groupes en fonction de la difficulté des élèves à l'intérieur des groupes. Étant entendu que pour des élèves qui ont acquis le groupe de compétences qu'on cherche à faire obtenir aux élèves, ceux qui ont acquis ou qui ont besoin de consolider sont des groupes qui sont numériquement plus importants. Et ceux pour qui il manque encore l'acquisition, les groupes sont numériquement peu importants, ce qui permet de travailler vraiment de manière individuelle. Ces dispositifs nous permettent de faire avancer les élèves, mais nous permettent également de pouvoir échanger, croiser les regards, se décentrer de sa discipline. Ça n'a pas été facile hein, de faire accepter que le professeur de technologie, y compris par les élèves eux-mêmes, hein, que le professeur de technologie avait toute compétence pour aller faire des mathématiques. Les professeurs se sont interrogés, mais les élèves aussi. Comment, monsieur machin, mais il est prof de techno, et alors il nous fait des maths? Oui, il vous fait des maths. Et ça marche très bien. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut mettre en place. L'intérêt que moi j'y vois et que nous y voyons dans mon établissement, c'est qu'à un moment donné, donc, on peut se poser sur échanger, harmoniser des pratiques pédagogiques, échanger sur des manières d'aborder des compétences. Le professeur de technologie n'a pas la même manière d'aborder la compétence, par exemple, de la maîtrise de l'opération que le professeur, vous me permettrez, j'ai un passé de premier degré, donc vous me permettrez cet écart, que le professeur formaté du second degré a de sa discipline. Et du coup, c'est ce regard décentré qui va permettre, me semble-t-il, de débloquer certains blocages où sont les élèves et leur permettre de dépasser ce blocage pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires. Ça, c'est un des exemples. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Je peux y aller. Bien. Bientôt conclure. Donc, vous me permettrez d'aller rapidement, mais pour dire qu'en tant que chef d'établissement, le levier qui permet, de mon point de vue, de mettre en place et d'expérimenter pédagogiquement des choses, c'est le conseil pédagogique. Le conseil pédagogique, comme son nom l'indique, dans le conseil pédagogique, on entend pédagogie. Et le conseil pédagogique, de mon point de vue, est le lieu où on doit pouvoir parler pédagogie avec les enseignants. Voilà. Il me semble important que ce conseil pédagogique soit institutionnalisé, que ça soit plus que sur la base du volontariat des uns et des autres, mais qu'on en fasse vraiment un lieu où on échange. Je voudrais juste dire un tout petit mot, si vous me permettez, sur le deuxième aspect de la difficulté scolaire qui est lié à l'image de l'élève par rapport à lui-même. On a parlé hier beaucoup d'estime de soi, etc. Dans l'établissement, nous avons constaté que les fractures des élèves liées à des estimes de soi dégradées pour des élèves qui étaient en décrochage scolaire sont bien sûr liées à un échec scolaire, mais souvent aussi liées à des histoires personnelles et familiales qui sont compliquées. Et les professeurs ne se sentent pas, à juste titre, légitimes pour pouvoir reconstruire. J'ai l'habitude de dire à mes enseignants, on vous demande de reconstruire avec un bâton de colle. C'est compliqué de reconstruire avec un bâton de colle quand la porcelaine a été fracturée. Et pour ça, nous avons cherché des partenariats et nous avons trouvé des partenariats avec des associations donc de psychologues qui nous aident à intervenir dans une classe en particulier, sous cet aspect de la reconstruction, la reprise de confiance en soi, rebâtir l'estime de soi, acquérir les codes sociaux qui manquent souvent aux élèves qui sont en décrochage, et surtout aider ces élèves à se reconstruire en se projetant. On ne peut pas avancer dans le cursus scolaire si on n'est pas projeté sur quelque chose. Et on ne peut pas se projeter si on est morcelé à l'intérieur. Je pense que tout ce travail-là, il est fondamental et il doit être mené en parallèle. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie.